se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, tous les jours de midi à 15h sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder, ça nous fait super plaisir. Voilà, on est très 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 heureux d'être avec vous pendant 3h tous les jours. On est également aujourd'hui avec Rémi Barré. Ça va Rémi ?
Bonjour Estelle, bonjour à tous, ça va ?
Daniel Riolo est là aussi. Dure soirée Daniel hier.
Pardon ?
Dure soirée hier.
Pour le foot.
Bah oui, je ne connais pas votre vie privée, mais enfin.
Non mais dur, pourquoi ? Les résultats des Français ont été bons.
Oui, les résultats, oui, mais enfin.
Tu veux parler des incidents ?
Bah, excusez-moi, ça m'a marqué.
Tout à l'heure. Mais il faut me prévenir quand tu vas faire des transitions comme ça, Estelle. Bah, vraiment. Je t'ai pas prévenu. Non, parce qu'en fait, j'ai été en train de préparer de quelle façon j'allais te féliciter pour tes très bons scores d'audience.
Pour nos très bons scores d'audience.
Oui, mais enfin, bon, nous, on n'est pas là tous les jours.
Bah oui, mais quand même.
Donc cette progression en un an. Je dis bravo, voilà.
Et les podcasts aussi qui progressent, que vous pouvez également nous regarder sur
la création de mon compte Insta.
Je crois que c'est lié.
Daniel Riolo 1.
Voilà, c'est ça.
Je mets ma pub tous les jours. Il faut, c'est important.
Mais n'hésitez pas, on est là pour ça. Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante à Dijon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Estelle.
Et le petit salut de la reine pour Emmanuel Dancourt, évidemment. Et puis le chef du service culture des valeurs actuelles, Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent.
Bonjour, moi je suis doublement en deuil à cause de la reine. Et puis Caroline Garcia qui a été battue à l'US Open.
Elle a été balayée.
Balayée, ouais. C'est très triste, ouais. Parce que franchement, j'aimais beaucoup sa façon de jouer.
Ouais, j'avais mis beaucoup d'espoir et un peu d'argent sur elle.
Non, je pensais qu'elle avait parié.
Si, je pensais qu'elle avait gagné l'US Open. Comme ça. Au sommaire, aujourd'hui, Fabien Roussel qui appelle les maires à ne plus payer leurs factures d'électricité lorsqu'elles explosent. Est-ce que ça vous choque ? Vous réagissez au 32-16. À midi et demi, les Français qui jettent en moyenne 67€ par mois de denrées alimentaires. Est-ce que c'est indécent ? À 13h, les violents incidents hier en marge du match Nice-Cologne. Deux supporters ont été grièvement blessés. Faut-il interdire justement les déplacements de supporters ? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On reviendra bien sûr très longuement sur le décès de la reine Elisabeth. Deux. À 14h, un village breton qui veut repeupler son centre-ville en y installant des réfugiés politiques. Bonne ou mauvaise idée. Et puis, on vous fera gagner plein de cadeaux Apple dans cette émission, Rémi.
Oui, parce que tout au long de la semaine, dans chacune des émissions d'RMC, nous vous faisons gagner des produits de la gamme Apple. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne vers 14h40 et il gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à ce moment-là, si vous êtes joueur, vous avez la possibilité de renoncer à ce gain et de le remettre en jeu donc pour tenter d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur cette fois des AirPods ou le dernier iPhone 14. Pour jouer, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est 17h, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec l'appel du jour. C'est celui de Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, demande aux maires et aux entreprises de ne plus payer leurs factures d'électricité lorsque celles-ci explosent. Nos villes et nos villages n'ont pas vocation à se faire tondre, dit-il. Est-ce qu'elles ont vraiment augmenté ces factures, Rémi ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le patron du Parti communiste apporte son soutien à un maire de l'Oise qui a été le premier à entrer en sécession, cet élu. C'est Jean-Pierre Bosineau, également communiste, maire de Montata. 15 000 habitants. Face à l'explosion du coût de l'électricité pour sa commune pour 2023, la facture doit passer de 600 000€ à 2,5 millions d'euros.
Ah oui.
Eh bien, il refuse de payer un centime de plus et il enjoint les autres élus de France à faire de même. Il faut savoir que si les particuliers sont protégés, on le sait, par le tarif régulé de l'électricité, ce qui a permis de bloquer les prix, eh bien, les collectivités de plus de 10 agents et de plus de 10 millions d'euros de budget sont soumises aux tarifs du marché. Elles doivent, ces collectivités, ces communes, recourir à des appels d'offres avec des opérateurs qui font ce qu'ils veulent. Selon l'Association des maires de France, selon les cas, les augmentations de coûts de fourniture d'énergie pour les collectivités s'échelonnent de 30, de plus 30%, à 300% pour l'électricité et le gaz. 90% des petites villes seraient concernées par cette hausse historique des coûts de l'énergie, avec des coûts supplémentaires qui peuvent atteindre jusqu'à 500 000 euros pour certaines d'entre elles sur l'année 2022. Et on sait qu'en 2023, ce serait peut-être encore pire.
Et on sera avec Fabien Roussel dans un instant dans Estelle Midi. Je commence avec vous, Daniel. Est-ce que ça vous choque, cet appel finalement à la désobéissance civile ?
Alors, le tableau que vient de dépeindre Rémi, on est bien d'accord qu'il est sombre.
Ah bah plus que ça même, oui.
Voilà. Donc déjà, on est d'accord sur le premier point. Moi, je me demande l'utilité de ce qu'on peut appeler une sorte de gros coup de gueule politique là pour exister dans cet instant. Et je me demande, en plus, s'il est avec nous dans un instant, oui, on pourra lui poser la question, si c'est vraiment le moment de faire ça et si la France a besoin de ça en ce moment, sachant que, on regarde un petit peu la situation en Europe, chez nos voisins, on voit bien que c'est partout pareil. Et ce qu'on peut constater, et la plupart des études le montrent, c'est que le gouvernement qui cherche à amortir les effets de la crise le fait plutôt mieux que chez...
Vois que Laurent est en train de dominer. Pour les particuliers, il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les entreprises.
Ok. Il y a déjà,
et les maires,
je suis
et
en train
les
de dire de la façon dont c'est géré pour les particuliers. C'est un peu, je pense, un peu mieux que chez tous nos voisins. Donc on pourrait accorder au gouvernement un peu de crédit sur ce point-là, et à côté de ça, se poser la question de l'utilité du coup de gueule de Fabien Roussel. Est-ce que ça encourage dans un second temps les Français à faire la même chose, à ne pas payer les factures ? J'ai une espèce de vieux fonds révolutionnaire un petit peu là-dessous. Je suis pas persuadé que c'est de ça dont on a besoin en ce moment pour faire bouger les lignes. Voilà.
Alors, je vous garde un petit peu au chaud. Je voudrais qu'on prenne Benjamin, parce que Benjamin, il est patron de bar à Saint-Fargeau, dans l'Yonne. Bonjour, Benjamin. Benjamin, vous êtes avec nous ?
Moi, je suis dans l'Yonne, à Saint-Fargeau, très exactement.
Bonjour, oui, c'est ça, exactement, Benjamin. Benjamin, est-ce que vous-même, vous avez du mal avec vos factures d'électricité en ce moment ?
Ah mais totalement, et puis c'est pas que en ce moment. Moi j'ai changé d'opérateur, comme je disais à votre interlocuteur tout à l'heure. Mm-hmm. Le seul problème c'est que c'est de pire en pire. À chaque fin d'été, alors que je bosse 7 heures par jour, presque 24 heures sur 24, je suis en déficit. En fait je bosse pour rien, quoi.
Et ça c'est à cause de l'électricité ? À cause de l'augmentation des factures. Alors, concrètement,
Benjamin,
c'est de pire en pire, mais donnez-nous un exemple. C'est-à-dire que l'année dernière, vous payez combien au mois en électricité et combien vous payez cette année ?
Ah non, mais en plus, moi, j'ai demandé parce que, en fait, je suis passé, au départ, j'étais chez EDF, je suis passé chez Total Energy, et ça fait 3 ans que, à chaque fin d'été, je me prends 5000 euros de facture.
D'accord.
Non justifiée, quoi.
Ça veut dire quoi, non justifié ?
Bah oui, c'est ça, je comprends pas.
Bah, c'est que, en fait, ils font des rattrapages.
Oui.
Sur la saison, parce qu'ils savent qu'on gagne de l'argent à ce moment-là. Et qu'après, ils nous disent « Ah bah non, on s'est trompé, monsieur. » Donc, c'est plus normal. Mais,
ah bah là, c'est un peu bizarre, parce que la façon dont vous en parlez, on dirait que c'est une arnaque.
Laisse-moi parler, s'il te plaît. ça fait 3 ans qu'à chaque fois, je me retrouve en rouge à la banque à chaque fin d'été. Alors que je me casse les bonbons à bosser 7 jours sur 7 pendant 6 mois, quoi. Donc c'est pas normal.
Mais on est d'accord avec vous. Bah merci en tout cas, Benjamin, d'avoir appelé depuis Saint-Fargeau dans l'Yonne. On est avec Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, qui appelle les maires justement à ne plus payer leurs factures d'électricité lorsqu'elles explosent. Il appelle également les entreprises à faire de même. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi, ça faisait longtemps, donc ça nous fait plaisir. Fabien Roussel, est-ce que c'est un appel à la désobéissance civile, finalement, ce que vous faites ?
C'est un appel à la résistance républicaine que je lance aux maires des communes, des villages, qui effectivement voient leur facture d'électricité augmenter de 100%, 200%, 300%, et résultat des courses. Les questions qui se posent, et moi j'ai eu cette question-là lors d'un séminaire municipal dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux, c'est quand on a une facture qui triple, où est-ce qu'on tape pour la payer, la facture ? On ferme quoi ? On ferme la piscine ? On ferme le musée ? On baisse le chauffage dans les écoles, dans les EHPAD ? Eh bien, il y a un moment donné, il faut qu'on dise stop. stop, c'est pas à nous de payer cette surfacturation.
Oui, mais c'est à qui,
alors?
C'est à qui?
Depuis la loi NOM, la loi de 2010, les communes, les collectivités sont obligées de faire des appels d'offres et donc de souscrire des contrats avec des entreprises privées qui, elles, aujourd'hui, augmentent ces factures de manière démesurée. Donc ce que je demande et ce que nous demandons avec d'autres maires et d'autres élus, nous demandons que les communes, les collectivités aient accès à un tarif réglementé de l'électricité, à un tarif stable.
Comme les particuliers.
Par l'État, comme les particuliers. Parce que derrière, ce qui se joue, ce sont des services publics de proximité qui répondent à des besoins. Et donc, il est injuste que ce soit les mêmes qui trinquent, nos enfants, la culture, le sport, les personnes âgées. Il faut préserver et protéger ces services publics et donc derrière nos concitoyens.
Oui, mais qui va payer, Fabien Roussel, si les collectivités, à un moment, ne payent pas leurs factures, qui va payer?
Il y a un moment donné, on est quand même dans un État, un pays, où c'est le politique qui doit prendre le pouvoir et ce n'est plus la bourse qui doit décider du montant de nos factures d'électricité. Il y a une spéculation qui se fait sur le prix, sur le marché de l'énergie et qui se joue en Europe avec le marché européen de l'énergie, des responsables politiques successifs, Sarkozy, Hollande, Macron, ont fait le choix d'inscrire notre pays dans ce marché déréglementé de l'électricité. Eh bien, il faut dire stop. Nous, France, nation, nous voulons retrouver la maîtrise de la tarification de l'énergie en France. Et nous sortons de ce marché européen de l'électricité. Et d'ailleurs, d'autres pays, là, viennent de décider de le faire, comme l'Espagne et le Portugal. Et nous devons retrouver cette maîtrise publique. C'est important pour nos services publics, mais c'est important pour nos entreprises.
Ça, je comprends bien sûr.
Donc, on revient à une nationalisation de l'électricité. On arrête les marchés concurrentiels en électricité. On contrôle toute notre énergie, c'est-à-dire notre électricité, qu'on produit et qu'on va produire comment? Puisqu'après, on va entrer dans le fameux débat, les centrales qu'on a fermées. Je sais votre position là-dessus. Mais on a l'impression toujours qu'il y a plein d'intérêts qui se télescopent. Par exemple, vous parliez des piscines tout à l'heure. Les piscines dont effectivement la population ne peut plus y aller, c'est un problème. Mais il y a vos amis écolos qui eux disent il faut pas les remplir parce que ça gaspille de l'eau. Donc on a toujours l'impression qu'il y a plein d'intérêts, on sait plus vers qui tourner la tête au fond.
Ah ben là après entre les écolos qui disent qu'il faut vider les piscines et moi qui veux garantir que nos enfants apprennent tous à nager et qu'ils aient accès.
Ah mais ce sont vos alliés, vos élections, vous étiez ensemble.
Les Français choisiront. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, qu'il faut retrouver une entreprise publique qui garantisse la production d'électricité, la distribution et les tarifs. Un État, une nation, c'est son rôle. Le politique, les élus, nous, députés, sénateurs, notre rôle, c'est de protéger nos concitoyens et de garantir donc l'accès à un droit, le droit de se chauffer et le droit donc d'avoir accès à ces services publics. Donc, nous devons retrouver cette maîtrise publique et bien sûr, ça c'est aujourd'hui, tout de suite, parce qu'aujourd'hui on a quand même des centrales qui tournent, la moitié sont fermées, mais l'autre moitié, elles tournent. Nous avons des barrages hydrauliques, nous avons des champs éoliens qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en pénurie d'électricité, nous sommes en train d'anticiper ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison à ce que ces tarifs augmentent. Si ça augmente, c'est parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande à la bourse. Et à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est pour ça que je dis que ce gouvernement...
Sauf que s'ils coupent l'électricité... En fait, ces entreprises, elles sont privées, vous l'avez rappelé. Donc si elles coupent l'électricité à certaines communes, là, pour le coup, c'est aussi les habitants qui vont trinquer, quoi.
Alors là, je veux voir l'entreprise privée d'énergie qui va couper l'électricité à une commune. Hein, j'attends de la voir. Mais moi, mon appel.
Moi aussi, j'attends de voir.
Mon appel, c'est pas à ce que demain on ne paye plus les factures. Je suis un républicain. Mon appel, c'est un appel à ce que ce gouvernement réagisse. Garantissent le fonctionnement de nos collectivités, garantissent les budgets des communes et garantissent à ce que nos entreprises, nos industries aient de l'électricité stable à des prix garantis.
En tout cas, le message est clair parce qu'il y avait une ambiguïté tout à l'heure, c'est clair là.
Les usines, elles sont en train de fermer. Moi, j'en ai dans ma région, qui est une région industrielle et sidérurgique. Arc International va mettre 1500 salariés en chômage partiel. C'est les mêmes.
C'est comme Duralex. Ils sont en train de faire la même chose.
Les mecs qui se gavent à la bourse sur le prix de l'énergie, et ce sont les ouvriers qui craignent. Donc, il y a un moment donné, faut dire stop. Et moi, je demande au gouvernement de garantir une électricité stable, à un prix garanti, et pour les communes, et pour les entreprises.
Et bah, merci.
Les Français, bien sûr.
Évidemment. Bah, merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été avec nous, en tout cas, dans Estelle Midi, et de clarifier justement cet appel à ne plus payer les factures. Et Emmanuel Dancourt, alors, je vous savais très sceptique avant ce débat sur cette proposition de Fabien Roussel. Est-ce qui vous a fait changer d'avis, numéro 1 du Parti communiste ?
Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Depuis qu'il s'est exprimé, je vois beaucoup mieux où il veut aller. Si on dézoome un tout petit peu, en fait, on se dit que la situation actuelle de l'électricité, que Fabien Roussel pointe du doigt à sa manière, ça rappelle simplement que l'abondance de l'énergie, c'est fini, en fait. Et il va falloir qu'on se réorganise. Alors, évidemment qu'il y a des mesures qui doivent être prises immédiatement, mais il va falloir qu'on se réorganise.
Mais
pas seulement au niveau de la France et pas seulement au niveau de l'Europe. Il va falloir qu'on se réorganise tout court. Et là, on est tous fébriles. Ça part dans tous les sens. En Grande-Bretagne, bien plus que chez nous encore. Oui, dans tous les sens. Il y en a qui poussent des coups de gueule comme Fabien Roussel. Il y en a qui font de la... Alors, t'as dit désobéissance civile. Il a dit quoi? Réaction républicaine?
Oui, résistance.
Ouais. Résistance républicaine. Derrière les mots, on met un petit peu ce qu'on veut. Ça veut tout et rien dire. Mais derrière ça, on dézoome et on se dit, là, on a un vrai problème. Il va falloir, en fait, tout reprendre. C'est pas uniquement ce qu'il a dit, c'est bien plus large que ça, en réalité.
Oui, mais alors, Laurent Dandrieu, est-ce que c'est pas aussi aux collectivités locales de faire des efforts? On le voit bien, quand
non,
même.
Ils en font des efforts.
Il y a du gaspillage de tous les côtés.
Bah, non, bien sûr. Je dis d'abord qu'il faut limiter les gaspillages. D'abord, je voudrais réagir à ce qu'a dit Emmanuel. Il n'y a pas actuellement de pénurie d'électricité en France. Il y a une perspective éventuelle de pénurie. Donc, on augmente des tarifs pour... Anticiper. Donc déjà, effectivement, je suis assez d'accord avec Fabien Roussel, et je suis d'accord aussi avec lui, je vais vous surprendre, mais sur le fond de la question, parce que il y a quand même...
Vous êtes d'accord avec un membre du Parti communiste?
Mais oui, c'est incroyable.
Je rappelle que vous êtes à Valeurs Actuelles, je suis très inquiet.
Je suis pour la droite sociale, vous savez. Et non, mais il y a une disparité de traitement entre les particuliers et les collectivités locales. Or, les collectivités locales, si elles utilisent de l'électricité, c'est pour faire fonctionner les services publics qui sont au service des particuliers. Donc il y a quand même quelque chose de très illogique là-dedans. Et par ailleurs, ce que demande finalement Fabien Roussel, c'est pas tellement utopique, c'est un retour à ce qui se faisait en France jusqu'au 1er janvier 2021. C'est-à-dire que jusqu'au 1er janvier 2021, les tarifs, les collectivités locales, toutes les collectivités locales bénéficiaient de l'électricité à un tarif réglementé. Et c'est pour se conformer à une directive européenne que on a changé de système. Mais ça veut dire que une fois de plus, l'État se désengage de ses responsabilités pour faire plaisir à Bruxelles.
Mais l'État peut pas tout faire non plus.
Bah, sauf qu'on y arrivait jusqu'en 2020. On y arrivait donc moment, c'est pas non
si,
plus.
C'est que l'État utopique. Contrôle l'électricité. Il y a pas de concurrence. Il y a pas Total Énergie.
Bah, on fait pas l'Europe.
Il y a une logique.
Absolument. Mais la question que pose Fabien Roussel, c'est ça. C'est
il y a une logique en France. En plus, la France a l'électricité. Est un service public.
On est producteur. C'est service public. On ouvre les fameuses centrales qui nous permettent de produire cette électricité. Et la France est en plus très en avance sur ses voisins européens dans le domaine. Donc on pourrait, d'ailleurs on a une électricité moins chère qu'ailleurs, on pourrait l'avoir encore moins chère si l'État contrôlait tout comme avant. Mais après, effectivement, on va se mettre en marge des règles européennes.
On a changé un système qui marchait pour le remplacer par un système qui ne marche pas.
Si on l'a changé, il y a une raison.
Pour faire plaisir à Bruxelles. Et il y a un moment.
Ah oui, mais enfin, vous faites partie de l'Europe.
Pas, on ne peut pas à la fois
on
dire.
On ne va pas sortir de l'Europe.
Sauf qu'on ne peut pas faire du en même temps sans arrêt et dire, comme le fait Macron, on veut retrouver notre souveraineté parce que la crise du Covid et la crise de l'Ukraine a montré que la souveraineté, c'est important. Et à chaque fois qu'on veut reprendre la souveraineté, on dit, ah ben non, on ne peut pas parce que c'est l'Europe. Il y a un moment, il faut choisir.
Après, Emmanuel Dancourt, c'est vrai que là, Fabien Roussel dit aux collectivités, payez pas votre facture d'électricité. Et puis, moi, je sais pas, moi, si je paye pas mes impôts, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un truc qui va pas.
Il a ajouté quand même qu'il demandait pas, parce que c'était ça l'ambiguïté, il demande aux particuliers de pas payer dans une sorte de désobéissance civile pour tout le monde. Il a bien dit, je suis un républicain, je ne suis pas en train de demander aux Français de ne pas payer les factures. Il l'a précisé, c'est quand même important de le dire.
Il dit quand même au maire, et il y a l'exemple d'un maire qui ne paye plus ses factures.
Il dit tout et son contraire, quand même. Il leur dit quand même, ne payez pas.
Il a bien dit que c'était un moyen d'ouvrir les négociations avec le gouvernement.
Non, mais il a voulu attirer, on voit bien ce qu'il fait, Fabien Roussel, il a voulu attirer la lumière sur ce problème-là en étant un peu rentre-dedans, en y allant avec ses gros sabots. Finalement, quand on l'a, nous, il nuance un petit peu les choses malgré tout. Il dit, mais je dis pas de pas payer les factures, mais en même temps, je dis de pas payer les factures. Donc voilà, il est évident, enfin moi, quand on vote pour nos élus, quel que soit le niveau d'élus, on vote pour qu'ils gèrent le budget. On vote pour qu'ils sont là pour ça, ils sont là pour gérer les problèmes. Alors là, c'est un gros problème, je suis d'accord. Il faut en discuter. discuter. Mais à la base, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour ne pas payer les factures. Ça va nous tomber dessus, de toute façon, cette histoire.
Voilà, il a jeté un pavé dans la mare.
Oui, voilà, il jette un pavé dans la mare. Voilà.
Moi, je pense qu'il a bien fait. C'est utile. Ça ouvre un débat qui est utile.
Voilà, bah, ça, c'est sûr que ça ouvre le débat. Rémi, vous avez des messages sur l'application
de RMC. De nombreux messages qui vont pas forcément dans le sens de ce que propose Fabien Roussel. Oui. Notamment ce message de Philippe qui nous dit concernant l'intervention de Fabien Roussel, au lieu d'inciter les maires à réduire leur voilure, notamment en termes d'emplois municipaux, ils préfèrent augmenter la facture de l'État et donc des Français en multipliant les impayés à EDF et les pénalités, c'est le PCF qui va les payer. Bon, il y a des messages qui vont dans ce sens.
Je sais pas si j'ai beaucoup d'argent le PCF.
Et sachant que c'est pas les impayés, ils n'iront pas à EDF.
J'ai du mal à comprendre ça parce que les municipalités, les collectivités, elles ont déjà beaucoup réduit la voilure en termes de services publics. Il y a toute une partie de la France où les services publics sont en voie de rétrécissement inquiétant et donc on peut pas aller plus loin dans ce sens-là, ce serait suicidaire.
Et puis il y a Alex qui nous dit c'est pratique si les maires refusent de payer des augmentations d'énergie, on va pouvoir refuser de payer les augmentations des taxes foncières.
Ben voilà. Ah oui, alors j'ai reçu la mienne. À mon avis, il y a une erreur. En tout cas, il y a un zéro en trop. Ah, c'est pas possible,
c'est pas une erreur, malheureusement, non.
Mais c'est incroyable.
On n'a pas fait le débat récemment. Faut-il acheter, être propriétaire ou pas, le fantasme de la propriété ici. Je crois que c'est même la semaine dernière, non?
Oui, d'ailleurs, j'ai reçu ma taxe foncière juste après.
Tu veux refaire le débat? Tu vas dire, ah ben non!
Finalement, c'est pas génial. Bon, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Estelle Midi, Fabien Roussel qui appelle les maires à ne plus payer leurs factures d'électricité. Est-ce que c'est choquant, Rémi?
Ben, c'est choquant pour une majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ils sont 60% à trouver ça choquant.
Oui, les gens qui nous écoutent, ce sont des bons républicains.
Des légalistes.
Ce sont des bons républicains.
Alors, ce qui est choquant également, c'est que les Français, jettent chaque mois en moyenne 67 euros de nourriture. C'est absolument incroyable. Est-ce que c'est indécent? On vous posera la question dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Canal 23 avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux avec vous également au 32-16 pour réagir aux chiffres du jour. 67 euros par mois en moyenne, c'est ce que jettent les Français en nourriture. Mauvaise gestion des restes, des dates de consommation en tout cas, ça paraît incroyable alors même que beaucoup de Français sont dans le rouge à la fin du mois. Hein, Rémi.
Oui, c'est ce que révèle une enquête révélée par HelloFresh, une société de livraison de produits frais à domicile. Selon cette étude donc, tu l'as dit, les Français jetteraient l'équivalent de 67 euros d'aliments chaque mois à la poubelle, ce qui correspond quasiment à ce que coûte en moyenne une semaine de course. La moyenne est à un peu plus de 81 euros. Pour près d'un quart des Français, entre 26% et 50% des produits alimentaires qu'ils achètent finissent au final à la poubelle chaque mois. Si, en cause, des produits achetés en trop grande quantité, des achats compulsifs, des aliments mal conservés ou systématiquement jetés dès que la date de durabilité arrive à échéance. La date de durabilité, c'est pas la date limite de consommation, c'est à consommer de préférence avant le. Et ben certains jettent dès que la date est arrivée, alors que par exemple pour les yaourts, on peut consommer jusqu'à 3 semaines après cette date. Et malgré la flambée des prix, notamment alimentaire, et bien une bonne partie des Français ne semble pas non plus changer certaines habitudes, puisque 36% d'entre eux disent ne pas conserver les restes de leur repas.
Ça fait un tiers, ça paraît absolument dingue ces chiffres. Alors, est-ce que c'est indécent? Dites-nous, tiens, justement, si vous faites partie de ces Français qui jettent, ou alors si vous cuisinez vos restes consciencieusement. Je vais m'adresser à vous, Emmanuel Dancourt, puisque vous avez 4 enfants. Donc, est-ce que vous faites très attention à ce que vous achetez et donc à ce que vous jetez?
Oui. Ah oui, c'est j'ai fait un petit calcul rapide. Pour une famille de 4 personnes, ça représente 268 euros par mois qui partent à la poubelle. Ça me sidère complètement. Oui, mais non, il y a une éducation déjà à faire au niveau des enfants, mais c'est cette fameuse date dont tu parlais. La date qui est marquée sur les yaourts, par exemple.
La date limite de consommation.
Ouais, non, c'est pas celle-là. La limite de consommation, c'est celle qu'il faut observer. D'accord. C'est vraiment là, il y a un danger pour la santé si on respecte pas la date pour les aliments, la viande, etc.
C'est
Par contre, la date de durabilité, c'est les fameuses
à consommer de préférence.
Voilà. Ce qui fait que, en fait, il n'y a pas de danger pour la santé, mais en revanche,
pourquoi ils nous donnent pas une vraie date? Si on doit mener une enquête de police pour savoir à quel moment c'est dangereux, on va pas y arriver.
Certaines associations, je fais très court, mais certaines associations réclament qu'on fasse disparaître.
En Angleterre, ils sont sont en train de
la. D'accord, mais il faut bien qu'il y ait une date. Moi,
non.
Si j'achète.
Non, non, ah bon, mais il y a pas de danger. Exemple, tu vois, c'est le 25 juillet, tu sais, jusqu'au 15 août, c'est bon, quoi.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Bah, parce que c'est parce qu'on sait que c'est dit entre 18 jours et 3 semaines.
Sur les pâtes et le riz, par exemple, t'as à consommer de préférence avant, alors que des pâtes, tu peux les manger 3 ou 4 ans après. Elles n'auront plus le même goût.
En Angleterre,
elles
n'auront plus le même goût,
elles seront bonnes. Si elles n'ont plus le même goût, c'est qu'elles sont plus bonnes.
Mais si. Il n'y a pas de danger pour la santé.
En fait, le but dans la vie, c'est pas de manger en évitant que tu sois malade quand même.
Oui, non, manger un truc qui est bon. Il n'y a pas de danger pour la santé.
C'est de manger un truc qui est bon. Donc autant qu'on nous dise clairement à quel moment l'aliment est dégradé.
Ça, c'est vrai.
Plutôt que d'essayer de lutter entre différentes dates et des associations nous disent faut faire gaffe à ça, faut faire gaffe à ça, on s'en sort plus. Qui nous donnent des vraies dates et qu'on n'en parlera plus.
Daniel, tu as un odorat, tu as des yeux, tu as un goût. Ça t'empêche pas le jour où ça sautera en France et en Europe ces dates de durabilité. Ce sera peut-être pas plus mal parce que moi, je disais donc à Estelle, c'est que les enfants, c'est une éducation de leur dire mais regarde pas forcément la date, ouvre le yaourt, utilise ton odorat. Éventuellement, ça va à la poubelle si vraiment il y a un problème. Voilà, mais jeter les restes. Je revois les repas à la maison quand il y en a un enfant qui d'abord pas finir son assiette chez moi, ça n'existe pas. Mais bah ouais, si vraiment il y a un problème,
ça, pas de reste.
Si vraiment il y a un problème qu'on a trop, que le petit s'est trop servi parce qu'il a les yeux plus gros que le ventre.
T'as trop fait. Des fois, tu cuisines pour 6, alors que t'es 3, t'as pas le compas dans l'œil.
Bon. Moi, je fais exprès de trop faire pour que ça fasse des restes, justement, et que t'es pas à cuisiner tous les jours. Et bien, tu fais le fameux fourzitou qu'on retrouve, qui a été popularisé dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Tu fais le fameux fourzitou. Moi, je mets tout dans la poêle, je mélange.
Tu m'inviteras pas à manger chez toi, s'il te plaît.
C'est excellent, mais tu rigoles, tu recrées des recettes.
Non, ça m'intéresse pas du tout.
C'est le cuisinier Pierre Gagnère qui a fait ça. C'est le cuisinier Pierre Gagnère qui a fait ça, qui à un moment, il y a déjà quelques années,
si
allait chez les Français, ouvrait les frigos, il regardait ce qu'il y avait, il prenait et il recréait un repas fabuleux. Bien sûr, c'est Pierre Gagnère, mais ça veut dire que nous, c'est quand même à notre portée de recréer un repas très sympa avec des restes plutôt que de jeter.
En fait, on fait aussi trop de grandes courses. Non, mais quand vous avez des enfants à la maison, vous faites toujours des grandes courses. En fait, vous dites pas qu'est-ce que je vais manger lundi, mardi, mercredi. Vous dites tiens, ça c'est en promo, j'ai acheté 3 paquets de yaourts. Puis en fait, finalement, c'est pas les yaourts. Les gosses n'aiment plus, on sait pas pourquoi, mais enfin voilà. Et puis en fait, vous gardez plein de trucs dans votre frigo. Et c'est ça aussi le problème, c'est de pas acheter jour par jour, en fait. Enfin, en tout cas, de pas avoir des menus.
On est bien d'accord que, on n'a pas tous 20 ans, on a un peu plus de 40, voire 50. On est d'accord que cette histoire de gaspillage alimentaire, on n'est pas alerté uniquement maintenant. Je me souviens,
mais moi ce chiffre il m'interpelle, 67 euros
peut-être, mais vous avez dû tous grandir. Enfin, je sais pas si vos parents vous disaient tout le temps
tu finis ton assiette
évidemment. Ah, pense aux petits confins, tu sais, les fameuses phrases.
Oui, alors,
non, mais c'est pas une phrase qu'on écoutait.
Pense aux petits confins au début des années 80,
quand il y avait tous les problèmes Somalie, Éthiopie, il y avait une sensibilisation.
On faisait des colis alimentaires à l'école,
on pensait aux enfants qui avaient faim, on répétait des phrases bêtes, mais finalement ça marquait les enfants. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais enfant.
On pensait aussi au budget familial. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. On était 7 enfants. C'est vrai que jeter les restes, ça n'existait pas, effectivement. Et alors, le grand secret des mères de famille, c'est de ne pas dire qu'elles font un fourzitou. Elles font de manger. Elles attendent que tout le monde ait dit ah, c'est très bon, qu'est-ce que c'était. Et après, elles vous disent il y avait tous les restes de la semaine. Mais moi, ce qui me stupéfie, c'est que je peux comprendre qu'on achète trop de fruits, trop de yaourts et que, paf, les fruits pourrissent, les yaourts sont périmés. Bon, on jette. C'est pas malin, mais je peux comprendre que ça arrive. Ce que je ne comprends pas, c'est ces 36% de Français qui n'ont pas la culture de réutiliser les restes du jour sur le lendemain.
Ou les remanger le lendemain, c'est ça.
Qui jettent le quart du rôti restant si jamais ils
l'ont pas mangé. Mais qu'est-ce que tu vas faire des campagnes de publicité, de sensibilisation?
Une proposition qui est totalement rétrograde, mais qui me paraît intéressante, c'est que dans l'école, à l'école autrefois, et notamment au 19e siècle, mais il y avait des cours d'économie domestique.
Alors, les arts ménagers.
À l'époque, c'était surtout adressé aux femmes, évidemment, parce que c'était l'esprit de l'époque. On pourrait très bien, aujourd'hui, réintroduire ça pour les enfants des deux sexes, pour leur apprendre les bases, effectivement, de l'économie domestique et des arts ménagers.
Ça existe toujours aux États-Unis. Enfin, moi, j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, en high school, tu as des cours que tu peux prendre d'économie domestique, où tu apprends à réutiliser les restes, aussi bien qu'à changer les couches d'un bébé.
Et puis même aussi à gérer un budget familial.
Ça existe dans d'autres pays.
Ça serait très utile.
Non, mais là, c'est quand même 60. 7 euros par mois.
C'est du masochisme. Mais quand vous voyez que le gouvernement. C'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres.
Le gouvernement, par exemple, met en place un chèque alimentaire. Bon, enfin, qu'il fait pour tous, sauf acheter de la bouffe. Enfin, un chèque alimentaire de 100 euros pour l'année. Si déjà on arrêtait de gaspiller, et ça ferait quand même 67 euros par mois, c'est largement plus que le chèque alimentaire. Donc, moi, c'est ça qui me choque.
Mais Daniel, il a raison. Il faut qu'il y ait une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que nous, on est issus d'une certaine génération qui a été élevée quand même contre le gaspillage. Mais c'est peut-être moins vrai aujourd'hui.
Après, il faut se méfier des statistiques. C'est-à-dire que les 36% qui ne gardent pas les choses du jour pour le lendemain, c'est probablement pas les plus pauvres qui, eux, sont obligés statutairement de faire attention.
Et c'est 67 euros par mois ?
Ouais. Par mois ?
Et par personne.
Moi, je suis sûr que j'arrive pas à cette somme. Et pourtant, ça me rend hystérique quand il y a un aliment que j'ai oublié dans le frigo. Je suis obligé de le jeter comme ça, alors qu'il est... Ça me rend fou. Ouais. Mais il n'empêche que, franchement, c'est difficile d'arriver à cette somme.
Non, en plus, je vais faire attention. Moi, quand je fais je mets toujours la main au fond du rayon pour prendre la dernière date de consommation.
Je vais faire attention, mais je ne suis pas sûr d'arriver à cette somme. Je ne crois pas. C'est bizarre.
Alors, on est avec Tyrone qui nous appelle du Nord et qui est responsable aussi en Drive Market, justement. Bonjour, Tyrone.
Bonjour, Estelle. Bonjour, tout le monde.
Est-ce que ça vous étonne, tiens, vous, ces 67 euros de gaspillage par mois en denrées alimentaires?
Non, ça m'étonne pas. Vu la composition des caddies de nos clients tous les jours, ça ne m'étonne pas. Moi, avant, j'étais en hypermarché, je le voyais beaucoup plus. Là, maintenant, je suis sur un format réduit en Market. Et en Market, nos clients viennent plusieurs fois par semaine. Donc là, ils sont beaucoup plus attentifs à leurs achats et au gaspillage. Mais en hypermarché, malheureusement, c'est encore trop élevé. Les 67 euros ne m'étonnent pas.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, en hypermarché, c'est ce qu'on appelle les grosses courses. Vous faites un énorme chariot et vous regardez un petit peu moins. Alors que quand vous faites vos courses trois fois par semaine, vous faites un peu plus gaffe à ce que vous achetez. Dans le gaspillage alimentaire, il y a aussi les supermarchés, qui jettent beaucoup aussi finalement, Tyrone.
Ben nous, on essaie d'éviter au maximum de jeter. Nous, c'est vraiment le but, c'est de jeter zéro produit. On travaille avec des banques alimentaires, on travaille avec des associations. Mm-hmm. On a aussi des propositions en magasin, pour le gaspillage alimentaire, donc on met en place des produits à date courte avec une réduction automatique, des produits en date du jour qui sont à moins 50, moins 70%. Et là, on a des clients qui, eux, viennent tous les jours pour prendre ces produits-là. Au moins, ils font un petit panier à 30, 40 euros et ils prennent que des produits à date courte. Ils savent qu'ils vont consommer le jour même ou le lendemain. Donc, c'est malin. Nous, on essaie vraiment de mettre en place tout ça, même en dry, si je peux me permettre de 30 secondes.
Bien sûr.
En magasin, un client qui va prendre un paquet de viande, il va regarder la date la plus longue disponible. Même s'il va le manger le lendemain, il va regarder la date la plus longue disponible.
Ça, c'est vrai. Ça, je le fais pour justement éviter d'être confronté au gaspillage. Ça, c'est vrai, t'as raison.
Mais moi, ce que je fais, du coup, je vais en drive. On va, si le client a commandé la viande, on va prendre une viande avec une date à 2-3 jours. Mm-hmm. On va la mettre dans sa commande. En livraison, on va lui proposer une viande à date du jour ou à date du lendemain. En lui demandant s'il va la manger aujourd'hui ou demain ou quoi, savoir quand est-ce qu'il va la consommer le premier. Si le produit est consommé rapidement, on lui met le produit le plus court. Si par contre il pense que ça va être la semaine prochaine ou quoi, on va lui mettre le produit plus loin. Mais on essaie d'éduquer un peu nos clients, nous directement en drive, leur proposer des produits à date courte. Ils veulent pas, c'est tout, on leur propose un produit à date longue. Mais au moins, ça évite vraiment de jeter des produits.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Tyrone d'avoir été avec nous, notre invité sur ce débat. C'est Stéphanie Moi, elle est directrice de la communication de Too Good To Go. Alors je sais pas si vous connaissez Too Good To Go, c'est absolument génial.
J'allais justement parler.
C'est une application anti-gaspillage. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors on est tous effarés par ce chiffre de 67 euros de denrées alimentaires jetées chaque mois par les Français. Et vous justement, votre application Too Good To Go, elle lutte contre ça.
Exactement, on est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire et on met en relation des commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont pouvoir récupérer ces invendus à petit prix en fin de journée et leur éviter de partir à la poubelle.
Ça cartonne ?
Ça cartonne parce qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, on a plus de 12,5 millions d'utilisateurs en France. On a 35 000 commerçants partenaires sur tout le territoire et on a sauvé plus de 40 millions de repas de la poubelle depuis le lancement de l'application en 2016.
C'est absolument énorme, Stéphanie Moi. Mais justement, ce qui m'interpelle, c'est que d'un côté, vous cartonnez et bravo parce que l'idée, elle est géniale. Et de l'autre côté, les Français jettent. Donc, il y a un truc qui va pas, quoi.
il y a un truc qui ne va pas, mais en fait, il faut se rendre compte du problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a 40% de la nourriture qui est produite, qui part à la poubelle. Donc en fait, le chantier est absolument énorme. Et en fait, on voit quand même que depuis quelques années, il y a beaucoup d'initiatives qui se placent sur l'anti-gaspille. Et ça va dans le bon sens. On voit que les comportements évoluent aussi bien chez les professionnels que chez les consommateurs. Et c'est encourageant, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire.
Alors restez avec nous Stéphanie, vous voulez poser une question?
Oui, ce que vous avez dit sur les professionnels m'a fait penser à un truc auquel je pense souvent, c'est t'arrives le soir, 18h, 19h, dans une boulangerie ou chez un épicier, mais c'est pas épicier, et traiteur, voilà. Et tu vois qu'il y a la nourriture, et il y a plein de choses, t'es obligé de te dire, c'est impossible que ce soit proposé le lendemain. Un sandwich tout fait.
Un croissant, c'est pas possible.
Un croissant, un gâteau.
Ils font une promo en général, Daniel.
Pardon ?
Ils font une promo en général le soir.
Et chez des traiteurs, même des traiteurs de luxe, où tu vois des choses bien, bien arrangées, c'est impossible que le lendemain ce soit dans le rayon. Où est-ce que ça va?
Chez Too Good To Go, justement, Stéphanie. Ouais,
Exactement. Parce que nous, on est là vraiment pour éduquer aussi bien les professionnels et voir que, justement, aujourd'hui, les consommateurs, il y a de vraies attentes par rapport aux marques et aux professionnels, en fait. Tout le monde sait que le gaspillage alimentaire est aberrant, que ce soit écologiquement, mais aussi moralement. C'est juste pas possible, surtout dans un contexte d'inflation dans lequel on est aujourd'hui. C'est juste inacceptable que des produits partent encore à la poubelle. Et donc, les consommateurs, les clients de ces marques-là sont aussi les premières à le faire remarquer.
Et t'as aussi beaucoup de boulangeries quand même, alors pas toutes, mais qui le soir, effectivement, vers 19h, 19h30, quand il leur reste 2-3 trucs, t'arrives et elles te disent, tiens, elles te filent oui, mais ça, un truc en plus, etc. Aussi.
Ouais, je comprends, mais il y a énormément de...
Elles te disent, tiens, je vous mets les deux pour temps.
Il y a des commerçants qui jettent aussi.
Une fois, je me souviens avoir posé la question, et dit, mais il y avait un type qui était devant, là, dans la rue, visiblement un SDF, je dis, mais vous pourriez, pardon, je sais pas, à 19h30, quand vous allez fermer, donner ça là. Et il me dit, non, les règlements nous l'interdisent, on peut pas faire ce genre de choses-là, j'ai pas vraiment le souvenir net de l'explication qui m'avait été donnée par ce traiteur. Et c'est là que je me posais la question, parce que même si vous dites, vous récupérez, mais j'ai pas bien compris, vous allez pas faire le tour de toutes les boulangeries, de tous les traiteurs pour récupérer ça, le distribuer, de quelle façon concrètement vous faites ça?
T'as les accords.
Mais le temps qu'il le récupère et qu'il le donne.
L'application fonctionne en fait de manière à ce que les paniers sont mis en ligne quelques heures avant la fin. Comme ça, quand on sait qu'il y a déjà des invendus qui vont être mis à disposition, et les utilisateurs se déplacent en fin de journée, en fait, justement, quand c'est la fin de la journée que tout va partir à la poubelle. Mais il faut pas se... Comment dire, pour le coup, il y a aussi beaucoup de commerçants qui font du don aux associations, et ça, c'est aussi hyper important.
Ah, d'accord.
Alors, on va terminer avec Aline, qui nous appelle de Berville-sur-Mer. Bonjour, Aline.
Bonjour Estelle, alors déjà je suis ravie de passer à l'antenne parce que c'est déjà là plusieurs fois.
Ah bah écoutez, très bien Aline, nous aussi on est ravis de vous avoir.
Merci, moi aussi. Alors en fait je suis pour, il y a plein de gens qui jettent la nourriture, donc ça c'est la vérité. Mais après il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure au monsieur qui est très gentil qui m'a reçu là déjà, c'est que dans le pire des cas, ce qu'il y a aussi c'est que quand on va acheter dans les grandes surfaces, je ne citerai pas le nom des magasins, je veux dire des fruits et légumes, et qu'au bout de 2 jours, même si on les met dans le frigo, ils pourrissent, donc bien obligatoirement, je veux dire, c'est pas de notre faute en fait. Et il y a plein de choses comme ça. Une petite anecdote, vous voyez, je suis allée dans une épicerie fine, hein, parce que je voulais me faire un petit plaisir avec mon conjoint, juste acheter un petit bloc de foie gras. Alors le prix, peu importe, mais on a voulu se faire un petit plaisir. Mmh. Et écoutez, on l'a ouvert le soir parce qu'on s'est pris des toasts en prenant un apéritif. Et figurez-vous que le foie gras, il était immangeable.
Ah ouais?
Ouais, mais ça arrive. Ah ouais,
là, c'est une arnaque, c'est pas pareil, Aline.
Il y a noir, comme s'il avait été mis à l'air, et il n'avait même pas le goût de foie gras. Alors, après,
donc. Mais vous l'avez rapporté, Aline, quand même?
Oui. Alors, je vais vous dire, en fait, ce matin, j'y suis allée. Alors, c'était pas la question des 11 euros, mais bon, enfin, voilà. Quand même,
oui.
Et je suis allée ce matin, et elle me dit, je suis pas dans le pot. Je dis, non, mais madame. Oui, elle me dit.
La réponse est drôle.
Elle me dit, je suis pas dans le pot. Je dis, non, mais madame, j'ai dit, regardez, je vous ramène le pot. Et je dis, dans le pire des cas, regardez, j'ai pris des photos. Je dis, goûtez-y. Elle me dit, non. Je dis, alors, elle me dit, je vais vous ordonner un autre. Je dis, non, j'ai pas envie que vous m'ordonniez un autre.
C'est déjà commerçant, Aline, quand même.
Oui, non, mais j'ai dit, non. Alors, elle me dit, alors, on fait quoi? Je dis, vous me remboursez le pot, madame. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a remboursé le pot.
Ah bon? Bon, tout est bien, qui finit bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage.
Et après, il y a une petite supérette à côté, je veux dire. C'est pas plus cher que dans les grands magasins. Et moi, je prends mes fruits et légumes ici. Au bout d'une semaine, je peux vous garantir, même s'ils ne sont pas au frigo, je ne jette aucun aliment que j'achète chez eux. Alors oui, je suis plus pour parfois les petites supérettes, les petits trucs de campagne, parce qu'au moins on sait ce qu'on mange, bien que sûr. D'aller dans les grandes surfaces. Et après, il y en a qui jettent beaucoup, et c'est vrai. Moi, je suis pour... Ah, vous voyez, bah, moi, je cuisine tous les jours, hein, et mon conjoint cuisine tous les jours. Alors, je suis d'accord avec la dame qui est là, en fait. Je me rappelle plus
Stéphanie, votre nom, excusez-moi. Stéphanie, moi.
Voilà, qui dit tout à l'heure, et bah, quand moi, je fais à manger, on n'est que deux, j'en fais pour 4-5, mais le lendemain, bah, je varie, et puis bah, voilà, il reste du poulet, bah, je dis, tiens, je fais revenir avec de l'oignon, et je mets du riz. Et puis, s'il nous en reste, et bah, nous, on congèle.
Ouais, c'est ce que disait en fait Emmanuel Dancourt. Merci beaucoup Aline d'avoir été avec nous. On va remercier également Stéphanie moi et on va rappeler cette application qui est absolument géniale. Franchement, je vous la conseille. Ça s'appelle Too Good To Go. Ça permet de ne pas gaspiller. Surtout, ça permet aussi de faire de grosses économies. Merci beaucoup Stéphanie moi d'avoir été avec nous. Alors 60€ de nourriture par mois jetée à la poubelle. Est-ce que c'est indécent, Rémi? C'est le sondage qu'on a fait sur notre compte Twitter.
C'est évidemment indécent et pour une très très large majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, 84%. 4% d'entre eux trouvent ça indécent.
Mais moi, je pense que la plupart des gens font attention, hein, sauf que parfois, t'es un peu pris par.
67€, ça fait 2€ par jour.
Moi, je pense que le sondage le montre, tu demandes à n'importe qui, tout le monde trouvera ça indécent. Tout le monde, je pense, essaye de faire attention.
J'ose espérer.
J'en suis sûr.
Allez, dans un instant, Anthony Morel, on reviendra sur le décès de la reine Elisabeth II. Et vous ne savez peut-être pas, mais la reine Elisabeth II, elle était hyper, hyper connectée. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 51, vous êtes sur RMC, RMC Story. Et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Avec vous, Anthony, nous allons revenir sur le décès de la reine Elisabeth II. Hier, on ne le sait pas assez, mais la reine Elisabeth II était une geek.
Ouais, on va dire, c'est une précurseur, une technophile, on pourrait le dire. En fait, elle a compris très vite l'intérêt que pouvait avoir la technologie pour dépoussiérer l'image de la monarchie et pour créer un lien plus direct avec son peuple. On va se permettre un anglicisme, c'était ce qu'on appelle une early adopter dans la tech. C'est-à-dire qu'elle adoptait très vite les nouvelles technologies. Je vous donne quelques exemples. Tiens, dès 1953, alors la technologie à l'époque c'était la télé, mais c'est elle qui va insister pour que son couronnement soit diffusé en direct à la télé. Voilà, donc parce que elle voulait que tout le monde puisse voir ça en direct comme si les gens étaient à Westminster. Donc ça, c'était une première illustration. Il y a eu aussi, à partir de 1957, le message de Noël. Le message de Noël, qui était un truc très traditionnel, pareil, diffusé à la télé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le message de Noël, il va évoluer avec les technologies. Quelques décennies plus tard, il sera diffusé en podcast, puis ensuite sur YouTube, et puis ensuite en 3D.
Vous avez... Il y avait une chaîne YouTube,
bien sûr, de la royauté, absolument, une chaîne YouTube officielle. Et alors en 3D aussi, vous savez, il y avait la mode des télés 3D il y a quelques années, avec les grosses lunettes là. Ça n'a jamais très bien fonctionné. Vous aviez le message de Noël.
On
n'est
pas arrivé au stade de la mode là.
Non, c'est vrai. Mais vous aviez le message de Noël. Ça peut sembler anecdotique, mais tout ça, mine de rien, ça a permis de créer un lien plus direct avec une institution qui était jugée quand même assez austère, fermée sur elle-même. Bah, ça a permis de la sortir un petit peu de cette ambiance un peu poussiéreuse, on va dire.
Et alors, apparemment, elle était très en avance sur Internet.
Ah, alors oui. À quel moment, à quelle date, dans quelle année vous avez envoyé votre premier email? Est-ce que vous vous souvenez?
J'étais 97.
En général, voilà. Pour la plupart des gens, c'est fin des années 90, début des années 2000. La reine Elisabeth II, 1976.
Mais non.
Mais oui. Sur ça ARPANET.
N'existait pas encore.
ARPANET, c'était l'ancêtre d'Internet sur une machine militaire. Alors, elle a été accompagnée, évidemment. Oui, enfin, quand même. Elle a envoyé son message à une époque où 99,9% des gens n'imaginaient même pas qu'on aurait un réseau informatique pour envoyer des paquets de données comme ça. Elle avait même un petit pseudo en ligne. C'était HME2. Donc, Her Majesty Elizabeth II. Voilà.
C'est pas mal.
Et alors, 97, site officiel de la monarchie, là encore, très en avance. La plupart des médias britanniques, par exemple, des grands médias, n'avaient même pas de site internet à l'époque. Donc, encore assez précurseur sur ce sujet.
Et c'était la reine des réseaux sociaux.
Ah, bah oui, elle est passée du Telegram à Instagram, quasiment, la reine Elisabeth. Donc, elle avait un compte Instagram, effectivement. Elle était suivie. J'allais dire que c'est une influenceuse. Peut-être c'est pas jolie. Quand même.
Elle avait combien?
Elle avait plus de 10 millions, il me semble.
Ah, quand même?
Ouais, non, c'était assez massif. Alors, c'est des photos très officielles de la famille, des photos. Voilà, c'était pas une influenceuse qui se postait des selfies en train de boire le thé, évidemment. Non, ça aurait cassé un petit peu le côté des officiel. Nudes.
Elle avait Twitter.
Twitter aussi. Elle avait un compte Twitter qui a été activé en 2009.
Jaloux.
Elle aussi, a tweeté à partir de 2014. Voilà. Bah, écoute, toi aussi, t'es précurseur. Zoom aussi, qu'elle a
combien
beaucoup
utilisé. Combien elle avait
de followers? Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Plus que toi. Je sais que t'en as beaucoup, mais je pense qu'elle était encore un petit peu.
Il y en a plus, puisqu'il a été banni.
Je savais même pas, c'est vrai?
Oui.
Ah bah, elle en avait 5,3 millions. Pardon, je te suis, mais j'ai même pas fait.
5,3 millions.
Ah oui, 3,3 millions, c'est pas mal.
5,3
millions, c'est quand même assez costaud.
Ah oui.
Alors, il paraît même, il y a une rumeur insistante comme quoi elle avait un compte caché sur Facebook. Ça n'a jamais été.
Pour critiquer les gens?
Alors, non, pour voir. Pour j'en sais rien après, peut-être. Mais pour. Voilà, exactement, pour voir un petit peu ce qui se passait dans son entourage proche. Et alors, elle avait, même à plus de 90 ans, une tablette tactile. Elle avait un smartphone. Alors, on parlait des iPhone hier, elle était Team Samsung. Samsung qui était le fournisseur officiel de la famille royale, hein, titre officiel, ouais, bien sûr, comme il y a la marque de thé, la marque de téléphone, il y a tous les fournisseurs officiels. Ben oui, un Samsung, c'est pas le même que le vôtre et le mien.
Il n'y a pas de marque anglaise de ça.
Smartphone, non. Et donc là, il était hyper sécurisé pour éviter les attaques, et apparemment, il s'en servait beaucoup pour appeler deux personnes, sa fille, la princesse Anne, et son directeur des courses hippiques, qui visiblement pouvait l'appeler à n'importe quel moment.
Passion. Ah oui, ça c'était sa grande passion.
Elle était grande passionnée de
courses hippiques. Vous savez pas qu'elle adorait les
cadastres. Des tonnes de chevaux.
Ça se trouve, elle a écouté les tuyaux d'Estelle.
Peut-être.
C'est pour ça qu'elle a raté un truc, Estelle. Sa plus grande passion, c'était les courses et les chevaux.
Si ça se trouve, c'est elle qui donne les tuyaux d'Estelle.
Maintenant, elle pourra plus les donner.
Enfin, en tout cas, le gars avait quand même le 06 de la reine, ce qui est quand même le numéro le plus classe à avoir au monde, je pense. Voilà.
C'est vrai. Bah, écoutez, merci beaucoup, Anthony, de nous avoir éclairé sur la face cachée d'Elisabeth II. Dans un instant, tout autre sujet. On revient sur les violents affrontements qui ont eu lieu hier en marge du match de Coupe d'Europe entre Nice et Cologne. Deux supporters ont été grièvement blessés. Alors, est-ce qu'il faut interdire justement les déplacements de supporters? Vous nous donnez bien sûr votre avis. Vous réagissez au 32-16. À tout de suite sur RMC.